repérage du bibliothécaire.
Bonjour Fanny, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Écoute, ça va très bien. Bon, Marc n'est pas là, mais je suis content aussi de partager ces moments avec toi.
Mais c'est un plaisir partagé et on le salue bien.
Ouais, oui.
J'imagine qu'on a de belles choses ce mois-ci en préparation.
Oui, bien sûr, on a plein de choses et on a des choses, des livres qui ont été lus, dont on va parler justement d'abord la sélection des livres qui ont déjà été enregistrés. Ensuite, on va, comme d'habitude, faire un petit panorama des choses, des livres qui sont en production. Et pour finir, des livres qui se trouvent sur la table, sur ma table, et qui sont à disposition des lecteurs pour qu'ils les choisissent et ensuite pour qu'ils puissent être dégustés par nos auditeurs.
Et pour ce mois-ci, justement, qu'est-ce que tu as pu repérer d'intéressant dans les nouveautés?
Oui, alors ce mois-ci, évidemment, comme toujours, la liste est riche. Et d'ailleurs, ce mois-ci, elle est particulièrement fournie parce qu'on a plus de 80 titres. Mais évidemment, il y a toujours des titres qui nous intéressent plus de mettre en évidence. Les polars, bien entendu, qui sont très appréciés. Je ne vais pas trop en parler puisque les gens, en tout cas nos auditeurs, vont souvent et voir ce qui se trouve. Mais je veux dire qu'entre autres, par exemple, ce mois-ci, on a les derniers Feutz, que c'est un auteur suisse que les auditeurs aiment bien, L'ombre du renard, avec le numéro 66258, et un autre, et polar, dont je ne vais pas beaucoup parler, parce que je vais me concentrer sur d'autres titres, qui est un polar d'un bip de Vincent Ortiz, et qui s'appelle « Pour seul refuge », avec le numéro, donc, qui est disponible, le numéro 66274, qui a gagné un prix, et le prix des enquêteurs 2019, et qui est un polar tout à fait remarquable.
D'accord.
Mais je vais me concentrer sur d'autres titres que je vais mettre en évidence pour ce mois-ci. Par exemple, et parmi les titres qui sont déjà à disposition, il y a un titre d'une auteure ou autrice, comme elle aime se nommer, suisse-allemande, qui s'appelle Annette Hug. Oh, Hug, comment on dit en allemand?
Hug, il ouais. me semble.
Ah, bon. Alors, Annette Hug, et les livres d'ailleurs ont été traduits par une grande traductrice suisse, qui est aussi une lectrice de chez nous, qui s'appelle Camille Lucher. Alors, le livre en français s'appelle Révolution aux confins. En allemand, le titre original, c'est Guillaume Tell à Manille. Parce que, justement, il est question de Guillaume Tell dans ce livre. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'un personnage qui existait vraiment. Donc, c'est un roman historique, en partie, puisqu'il s'agit de José Rizal, qui est le héros de l'indépendance philippine, mais qui est aussi un médecin. Il était ophtalmologue, donc tu vois, il y a un lien là avec la bibliothèque sonore.
Oui, oui.
Parce qu'il étudiait, on est au 19e siècle, hein, et donc il s'est spécialisé dans la chirurgie de l'œil. Il va en Europe, depuis les Philippines, parce qu'il avait aussi déjà quelques soucis avec les autorités espagnoles, qui étaient à l'époque ceux qui dominait, qui avait colonisé les Philippines.
Mmh.
Et alors, il va en Europe, il va étudier la médecine, il va en France, après il va en Allemagne, mais en même temps, on le suggère de traduire des livres. Et il va traduire des livres de Schiller, donc des pièces de Schiller, et puis il va traduire un drame de Schiller qui s'appelle Guillaume Tell, justement.
Donc
c'est le fameux livre par lequel on connaît Guillaume Tell. C'est-à-dire, il y a ce drame où il y a toute cette histoire de la pomme, mais qui est beaucoup plus que ça. Cette pièce de théâtre est beaucoup plus riche que cela. Et il va traduire, le problème c'est qu'il doit le traduire en tagalog, qui est la langue philippine. Et il y a déjà des mots qui n'existent pas en Philippins, pour les glaciers, pour plein d'autres choses. Et aussi, il essaye de transposer, donc de faire une traduction qui aille, qui transmette non seulement les sens, mais aussi qui permet de faire une adaptation, en quelque sorte, de Guillaume Tell. Donc, il y a toute cette histoire de la traduction, toute cette réflexion sur la traduction.
Très intéressant, oui. Oui. Qui fait justement Camille Lucher avec ce livre également. Donc, oui. C'est une belle mise en abîme.
Voilà, exactement. Il y a la traduction de Camille Lucher, bien sûr, et la traduction du livre. Il y a la traduction qu'a fait Annette Hugues, qui a traduit à l'envers de Tagalog en suisse-allemand, Guillaume Tell, pour voir un peu l'envers ce qu'avait fait José Rizal. Mais il y a dans le livre lui-même, parce que c'est un livre qui se lit comme un roman d'aventure, il y a toute cette histoire de l'Europe au 19e siècle, des Philippines, avec justement ces jeunes qui commencent à vouloir l'indépendance, ou en tout cas l'autonomie par rapport à la métropole espagnole. Il y a les paysages des deux côtés qui se mélangent dans le livre de manière très, très intelligente, très harmonieuse. Il y a bien sûr l'histoire de l'Europe à cette époque-là, les nouvelles découvertes scientifiques, c'est-à-dire que les titres en français, Révolution au confin, c'est pas seulement la révolution qui se prépare ou qui aimerait faire aux Philippines, mais c'est aussi les révolutions au niveau des nouvelles techniques, des nouvelles découvertes qui se mettent en place en Europe. Donc tout ça est donné d'une manière, parce que le livre n'est pas très gros et pourtant il est assez intense, qui se met en place dans le livre. Et évidemment, on les lit avec grand plaisir et puis en lisant ce livre, on a envie à nouveau de lire, si on l'a déjà lu, et si on ne l'a pas lu, de le lire, de découvrir les Guillaume Tell original de Schiller. Oui. Donc c'est un livre qui, et en plus, il a gagné le prix suisse de littérature en 2017, et dans sa version originale en allemand. Mm-hmm. Donc Révolution aux confins, qui est disponible au numéro 66307. Voilà, ça c'est pour un des livres que j'aimerais mettre en évidence. Ensuite, il y a deux livres qui sont dès la rentrée littéraire, on va dire. Bon, celui-là aussi, d'ailleurs, celui d'Annette Hugues, parce qui a été publié aux éditions de Zoé. Mais il y a deux livres de la rentrée littéraire, un français et l'autre anglais.
D'accord. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les livres en français, c'est d'Eleonora Miano. Eleonora Miano, c'est une écrivaine francophone, africaine francophone, et il s'appelle Rouge Impératrice. Alors c'est très intéressant parce que c'est une sorte de dystopie, et c'est le monde à l'envers. Alors imaginez-vous que dans un futur relativement proche, les continents africains deviennent prospères, deviennent riches, et alors il y a un régime quand même assez de mains fermes, on va dire. C'est pas une démocratie extrêmement relâchée. Donc il y a une sorte de configuration qui se présente d'un pays qui va devenir les États-Unis d'Afrique et l'Europe qui est complètement tombée
dans la
déchéance, à la dèche, comme on dirait Shakespeare, et va donc vont émigrer, s'établir en Afrique, mais les descendants de ces émigrés sont mal vus, parce que ce sont des gens un petit peu qui sont qui ont des coutumes qui ne s'adaptent pas, qui ne s'intègrent pas à l'Afrique, tu vois, c'est des gens qui sont, on les appelle les Fulasi, ils s'intègrent pas, ils sont pas, ils s'adaptent à les bonnes mœurs de l'Afrique, et donc, on veut les expulser.
Oui.
Allez, qui rentrent en Europe, tous ces jobs-là, cette Europe-là, ces pays pauvres. Et donc, il y a une histoire d'amour entre deux personnages. Une femme, justement, qui a une histoire d'amour avec les chefs de cet État-là. Mmh. Et puis elle est plutôt pro ces Européens, ces pauvres Européens perdus. Elle essaie de les aider. Mmh. D'autres ne veulent pas parce qu'il y en a. Il y a les radicaux, un peu les extrémistes, un peu les partis extrêmes qui veulent, qui s'en aillent tous, qui rentrent chez eux, tous ces Européens. Et donc, ça nous met une mise en abîme, un miroir de ce qui se passe actuellement, mais d'une manière très intelligente. Donc, ça s'appelle Rouge Impératrice. C'est le numéro 66305. Malheureusement, il était candidat au prix Goncourt dans la deuxième sélection, mais dans la dernière sélection, malheureusement, il ne se trouve plus. Étonnamment, je suis un peu étonné pour les livres qui ont été choisis, mais bon, on prochera prochainement. Bref, il est disponible avec le numéro 66305, Rouge Impératrice. Voilà pour les livres français. Alors, pour le livre anglais, qui est un livre aussi d'actualité, et tu sais qu'il y a maintenant toute la problématique du Brexit, qui se précise, plus ou moins ou pas, enfin, on ne sait jamais. Et le livre, c'est un livre de Jonathan Coe, qui est un grand auteur anglais, qui est un auteur qui a beaucoup de sens de l'humour, qui est de l'ironie, et cet humour à l'anglaise, comme ça, un peu pensant à rire, mais qui frappe fort. Alors, le livre s'appelle « Le cœur de l'Angleterre ». Et justement, pourquoi ? Parce qu'on va, à travers une famille anglaise, la famille Trotter, donc ils sont partout dans le monde, les clubs Trotter, la famille Trotter, qui a des personnages et très divers, on va voir toute l'évolution de la société britannique et dans les années dès 2010 jusqu'à 2015, 2016. Donc c'est un peu cette évolution qui va conduire justement depuis, il y a eu un gouvernement de coalition à un moment donné, il y a eu les Jeux Olympiques en 2012, qui ont été très magnifiquement mis en scène. Mais avant cela, il y a eu les grandes émeutes de Londres, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était en 2011, donc il y a 8 ans. C'était petite à l'époque.
Pas petite, mais je ne m'en rappelle pas exactement.
Et donc, il y a eu des grandes émeutes, oui, à Londres. Donc, il y avait un grand mécontentement populaire. Mm-hmm, mais mm-hmm. Il y avait aussi tous ces replis nationalistes. Il y a des problèmes de la précarité, et les problèmes du repli sur soi, etc. etc. Donc, et tout cela est mis en scène par Jonathan Coe à travers la famille Trotter, Benjamin, qui est un cinquantenaire, qui devient écrivain, enfin en tout cas qui publie un livre. Il y a sa nièce qui est une jeune universitaire plutôt de gauche, on va dire, mais qui se marie avec un jeune homme très sympathique, mais qui a plutôt des idées un petit peu plus conservatrices. Et donc justement tout ce monde conservateur aussi qui veut absolument sortir de l'Europe, parce que l'Europe ça mène à rien, ça mène qu'à des étrangers. Alors, du coup c'est un peu un contrepoint avec les livres précédents, oui, parce que ça montre un peu ces rejets de l'autre, mais du point de vue de l'Europe telle qu'il se passe maintenant. Donc c'est un livre aussi très intelligent, avec beaucoup d'humour. D'accord. Et Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe, avec les numéros 66301. Et pour finir cette petite sélection des livres, en tout cas, mais les coups de cœur, ou plutôt les repérages que j'ai fait dans ce qui va sortir dans ces numéros, il y a un livre qui n'est pas de la fiction et qui est plutôt un livre des réflexions ou d'échanges d'une linguiste et auteur suisse qui s'appelle Stéphanie Pahut. Les livres s'appellent « Chérissons-nous, nos cœurs nous parlent ». Et « Chérissons-nous » avec C-H-A-I-R, c'est-à-dire que ça parle de la chair. Pourquoi ? Alors, ces livres, en fait, l'idée de base du livre, c'est qu'on doit, enfin, en plus de cultiver la bienveillance, notre corps étant un mode de communication. Oui. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec notre corps communique, et il faut se faire du bien. Et puis aussi, nos corps nous expriment. C'est-à-dire que quand elle dit nos corps nous parlent, c'est pas nos cœurs, mais nos corps nous parlent, et c'est une manière de dire que les corps parlent par nous. C'est pas qu'ils nous parlent à nous, c'est pas que notre corps nous dit bonjour, mais c'est que notre corps est une manière de parler, est un exactement. Langage.
Oui, oui.
Et donc là, elle sait chérir. Donc elle va parler de toutes les manières qu'on a, en fait, de se faire du bien ou de faire du bien, et que ce soit par les plaisirs, bien sûr, par l'écriture, par la méditation, même par les tatouages, qui ont un rôle très important dans les livres. Aussi, il faut parler de ce qu'on ressent, de ses désirs. Il faut aussi faire attention à l'autre. Donc, il y a toute une manière. Et pour cela, elle va incorporer dans son livre toute une série de personnages, de personnalités. Il y a Beck Bédé, par exemple, l'écrivain, Fonkinos, mais il y a aussi et des philosophes, sociologues, linguistes, une tatoueuse, justement, sa tatoueuse à elle, qui va parler aussi de sa vision du monde, et un personnage qui est un personnage de la nuit, genevoise, qui est aussi un peu dans cette ambiguïté des genres, et qu'elle interviewe, qui va montrer un peu comment on peut être une chose ou l'autre. L'important, c'est de se sentir bien dans ce qu'on est. Elle va aussi donner des témoignages d'elle-même. Donc, le livre est très riche, très varié, et nous donne ses visions de comment aboutir à une sorte de bienveillance à travers la chair, on va dire. Et juste pour les détails, il y a une petite interview qui a été faite, j'ai faite dans des conditions un petit peu difficiles, des bruits, avec Stéphanie Pahut, donc qui parle de son livre et de sa vision du monde, qui va accompagner ses numéros, donc vous pouvez y accéder. De même qu'il y a aussi une interview avec Annette Hugues et Camille Luchère, et celui-là enregistré dans des conditions un tout petit peu meilleures. Et donc, pour revenir à Stéphanie Pahut, dans le livre « Chérissons-nous, nos cœurs, nos corps nous parlent », et ce livre est disponible à la BSR avec le numéro 66256.
Eh oui, et d'ailleurs, elle ne va pas bientôt venir chez nous à la BSR nous faire une petite conférence.
Oui, elle va venir dans la BSR Apéro du mois de janvier. Donc, le premier BSR Apéro de 2020 va être avec Stéphanie Pahut, où il va parler justement de l'acte de s'échérir et puis d'autres choses aussi qui concernent et aussi la question de la normalité, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et les rapports justement avec les corps. Donc, voilà, pour les livres, enfin, un aperçu tout petit de cette grande sélection de ces mois et qui sont déjà disponibles.
Très bien, merci. Et qu'est-ce qui se prépare alors dans les coulisses de la production et qu'est-ce qui est en lecture en ce moment ?
Alors, en ce moment, ou bien, comme toujours, il y a une belle palette de livres qui sont soit en lecture, soit déjà entre les mains et les oreilles de nos collègues de la prod qui sont en train de corriger. Et parmi ces livres-là, il y en a deux que je trouve intéressants. Il y a le premier, c'est d'un écrivain américain un peu spécial, qui s'appelle Keith Anderson. Le livre s'appelle « Un soleil sans espoir ». Alors, Keith Anderson, qui est aussi un vétéran de Vietnam, qui était un gaillard qui a été policier, mais qui est aussi un intellectuel. Et donc, et son personnage, justement, qui a beaucoup de lui, étant un flic, un policier, qui se considère lui-même comme un travailleur social, avec un pistolet. Mais oui, et donc il est, dans l'occurrence, là, dans ses livres, il est à Oakland, aux États-Unis, et il va, après avoir fait des études de lettres, etc., donc il est déjà pas tout jeune, et va vouloir intégrer la police de Oakland, pour d'accord. Ça, donc il s'ouvre un peu des brimades, etc., mais bon, il s'est remis. Et puis là, des rapports avec, justement, elle a une manière de résoudre les conflits qui est assez particulière, qui est complètement à l'encontre de tout cet aspect des conflits, des violences interraciales qui ont ses collègues de la police. Il va devenir ami, copain avec un petit enfant noir, et puis aussi il va avoir une relation un peu ambiguë avec un caïd de la pègre qui se considère lui-même comme un bienfaiteur en particulier des Afro-Américains du coin. Et donc c'est un livre qui est pétri d'humanité, même si c'est très dur parce que bon, ce personnage il est obsédé par la guerre du Vietnam, il boit, il est un petit peu, ouais, il est un petit peu cabossé. Mais c'est un personnage, le personnage est très touchant. Et c'est pas le polar classique banal, c'est autre chose, c'est même pas un polar, c'est plutôt un roman noir, on va dire, et social.
C'est l'aspect social qui compte.
Voilà, oui. C'est l'aspect social et l'aspect de l'humanité. D'accord. dans la scène noirceur. Il est aussi l'auteur d'un roman qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Sympathy for the Devil, Sympathie pour les démons, qui a gagné, qui a été très, très bien reçu par la critique et par le public. Donc, Keith Anderson, Un soleil sans espoir, bientôt disponible. Et un autre livre qui est déjà en production, tout à fait différent. Là, en l'occurrence, l'autrice est française, mais elle fait référence à une auteure ou autrice anglaise. Parce que le livre est d'Emmanuel Favier, écrivaine française, qui a écrit un livre sur Virginia. Donc, Virginia, c'est Virginia Woolf. Et en l'occurrence, le livre traite pas des Virginia Woolf, célèbre, connue, mais des débuts. Comment elle est devenue écrivaine.
D'accord.
Donc c'est un roman qui essaye de sonder, de pénétrer dans ses débuts de Virginia Woolf, quand elle ne s'appelait pas encore Virginia Woolf, elle s'appelait Virginia Stephen. Et donc elle va parcourir, elle va vraiment pénétrer dans cette vie de manière très, très délicate, très intelligente. Et elle avait écrit d'ailleurs, Emmanuel Fabien, un autre livre qu'on a lu à la BSR, qui s'appelle « Les courages qu'il faut aux rivières », un livre très beau sur des femmes en Albanie, justement, qui choisissent de devenir des hommes, entre guillemets, pour pouvoir échapper au mariage et autres.
Voilà, donc,
exactement. Donc, c'est un très beau livre, mais là, en l'occurrence, c'est sur Virginia Woolf. Donc, Virginia de Emmanuel Favier, qui sera très bientôt disponible.
Et pour l'avenir, qu'est-ce que tu réserves à nos lecteurs, mais surtout nos auditeurs ? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ta table en ce moment ?
Alors, sur ma table, comme toujours, il y a une sélection que j'espère intéressante et belle pour tous les goûts. Et parmi les livres qui attendent une lectrice ou un lecteur dévoué qui pourra le faire écouter à nos auditeurs, il y a deux livres qui sont, à mon avis, différents mais intéressants. Le premier, c'est d'un auteur américain qui avait été oublié longtemps et qui est un petit peu parfois, comme il arrive parfois, retrouvé, redécouvert. Il s'appelle William Melvin Kelly. Et c'est un auteur afro-américain, noir donc, et Cet auteur, il avait écrit un livre dans les années 60 qui s'appelle « Un autre tambour ». Et c'est un livre un peu particulier. C'est un livre qui a du roman fantastique, dystopique, mais en même temps du roman social et historique. Pourquoi ? Parce qu'il se déroule dans un état imaginaire des États-Unis qui se situe entre l'Alabama et le Mississippi. Donc, c'est le sud. Hein, le sud, là, où vraiment il y a les... Hein, bon, on voit que les racismes, il est répandu, mais là, en particulier, dans cet état-là, c'était du lourd. Alors, à un moment donné, en 1957... il y a un fermier qui s'appelle Tucker Caliban. Caliban, c'est un personnage aussi qu'on trouve dans Shakespeare. Il y a Tucker Caliban, et c'est un fermier noir qui décide à un moment donné, il y a les blancs et les noirs qui habitent, qui cohabitent plus ou moins comme ils peuvent, et il décide tout simplement de mettre le feu à sa maison, il tue sa vache, tue son cheval, il met du sel sur son champ, donc il anéantit tout, et il part. Il part vers le nord, et tous les Afro-Américains du village les suivent. Et ils abandonnent le village. Tout à coup, les Blancs, ils se retrouvent tout seuls. Et c'est bizarre, ils ne savent pas pourquoi. Et ils sont inquiets, ils sont confus. Et l'histoire est racontée du point de vue d'un Blanc ou des Blancs qui se posent des questions. Pourquoi ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en même temps, c'est l'histoire des États-Unis, l'histoire de la ségrégation, l'histoire des rapports entre les Noirs et les Blancs, qui est racontée d'une manière très originale avec ce livre, qui est un, on peut dire, c'est presque un classique retrouvé, Un autre tambour, de William Melvin Kelly. On en reparlera quand il sera lu. Et pour finir, un livre d'une autrice, je pense qu'elle aimerait bien parce qu'elle est très féministe, et qui est canadienne, en l'occurrence, mais canadienne anglophone, très connue, qui s'appelle Margaret Atwood.
Ah, d'accord.
Alors, Margaret Atwood, tu connais, tu connais un peu son livre dont on parle le plus.
La Servante écarlate, hein, voilà. C'est bien ça. Oui,
voilà,
oui.
La Servante écarlate. Alors, justement, il vient de paraître en français la suite, la vraie suite de La Servante écarlate, qui s'appelle Les Testaments. Et là, et un peu, c'est la suite, parce qu'il y a eu les livres, et après, il y a eu la série. Mm-hmm. Et la série a brodé un petit peu après sur les livres pour construire des choses qui n'étaient pas dans les livres.
Voilà, oui.
Et Margaret Atwood, et là, on part, et disons, Galahad, qui s'appelle Gilead, mais c'est un anglais, donc le vrai nom, l'équivalent français, c'est Galahad. Et puis dans cette traduction, cet état-là, qui est dans les États-Unis, s'appelle Galahad. Et dans cet état, la réalité de ce monde cruel, qui est une sorte de dictature dans laquelle les femmes sont opprimées et transformées en objet de reproduction. Exactement. Et elle est donnée à travers trois personnages. À travers un personnage, alors il y a un personnage qui s'appelle Daisy, qui, elle habite au Canada, parce que le Canada, c'est un peu le pays de cocagne. Le pays de Canada, ça n'a pas été pris par ce régime totalitaire, donc c'est un pays de liberté qui fait frontière avec Galahad. Et Daisy, c'est une fille de Galahad qui observe ce régime depuis son pays.
D'accord.
Et qui essaye de comprendre, qui connaît les histoires, mais qui n'a pas vécu vraiment là-bas.
Mm-hmm.
Le deuxième personnage s'appelle Agnès. Alors, Agnès, c'est la fille qui est un peu la protagoniste du livre premier, donc elle est June, qui est devenue Alfred, ou Alfred en anglais. Et c'est la fille qu'on lui a enlevée. Quand elle était petite, qu'elle était née avant, et puis qu'elle a été enlevée par d'autres gens,
oui,
par des personnages un peu importants des Galahad.
Et
qu'on
retrouve là. Alors,
voilà. Ouais. Mais elle a ses regards, elle raconte de son point de vue, mais évidemment, elle a été élevée comme la fille de Clatomina, donc elle a son point de vue qui est un peu, disons, pour les produits.
Ouais.
Voilà, les produits d'un lavage de cerveau, en quelque sorte. Et le troisième point de vue, qui est très intéressant, parce qu'on va découvrir des choses, mais je ne veux pas vous spoiler, bien entendu, on va attendre que la lectrice ou le lecteur dévoué consacre à ce livre, c'est Tante Lydia. Alors, pour ceux qui connaissent La Servante écarlate, ils savent que Tante Lydia, c'est un personnage pas extrêmement plaisant et agréable, mais pourtant, il y a des surprises que vous allez découvrir avec les témoignages, avec la confession de Tante Lydia. Mais je vais vous laisser les suspens jusqu'à la lecture. Voilà, donc, pour ceux qui se préparent pour l'avenir.
Ah, bah, très bien, on se réjouit. Merci beaucoup.
Mais merci.